peut-être qu'inconsciemment, il y avait aussi cette idée, je pars pas pour faire une performance, je pars pas pour faire un record. Il y a d'autres personnes bien plus fortes que moi qui ont fait ces 4000 en 60 jours, 62 jours. Moi, j'étais pas du tout là-dedans. Je me suis dit, je veux vivre la montagne pleinement. Je veux la vivre à mon rythme. Je veux la découvrir et je veux la partager.
Bienvenue dans Les Explorateurs. Les femmes et les hommes que nous écoutons ici ont consacré leur vie à explorer le monde. Ils ont un jour décidé de se mettre en danger, par goût de l'aventure ou pour fuir une vie toute tracée. Pendant une trentaine de minutes, nous voyagerons avec eux au plus près des éléments et nous avons de la chance. Dans une ancienne vie, Liv Sansouz était championne du monde. Originaire de la Haute-Tarentaise, la jeune femme se fait un nom en 1997 lorsqu'elle triomphe à Paris au championnat du monde d'escalade. Elle n'a que 20 ans et devient une référence d'une discipline en plein essor. Ce goût du dépassement de soi ne l'a jamais quittée, mais il lui manquait le frisson, l'aventure des grands récits de montagne qui l'ont bercé toute sa jeunesse. Freinée par les blessures, Liv Sansouz abrège une carrière prometteuse et devient best jumpeuse. Elle se jette dans le vide, munie d'un parachute, trompe la mort et se blesse encore. Dans sa troisième vie, elle opte alors pour l'alpinisme, où elle ne se laisse d'autre choix que d'exceller en explorant ce qu'elle connaît déjà si bien, les hauts sommets des Alpes. Rémi Fière est allé écouter son histoire.
Liv Sansouz, bonjour. Nous sommes ici chez vous, aux Ouches, près de Chamonix. Il y a environ 2 ans, un grand projet pour vous, une sorte de retour aux sources de l'alpinisme, une envie presque, vaincre les 80 sommets de l'arc alpin de plus de 4000 mètres. En passant évidemment par la Suisse, par l'Italie, par la France, une prouesse qui avait déjà été réalisée par d'autres que vous, mais que vous, Liv Sansouz, avez tenté de réaliser à votre tour. Et donc c'est pour parler de cela et peut-être de bien d'autres choses que nous sommes ici avec vous, pour notre podcast intitulé d'une façon un peu masculiniste, Les Explorateurs. Parce que vous, Liv Sansouz, vous êtes une exploratrice, non ?
Oui, plutôt. Mais explorateur, exploratrice, ça a quand même une notion vraiment de voyage, d'aller très loin pour mettre les pieds sur un endroit où personne d'autre n'a jamais mis les pieds. Et je ne suis pas dans cette configuration-là, vraiment. Je pense que je suis plutôt une aventurière ou une amoureuse de la montagne, très certainement. Puis j'aime bien découvrir les choses et apprendre en me lançant dans des projets que je maîtrise peut-être pas forcément.
Alors justement, c'est l'occasion de revenir sur ce fantastique challenge des 82 sommets alpins. Comment cette idée a germé chez vous ?
Je me trouvais en Suisse sur un sommet qui s'appelle le Schreckhorn, qui est la montagne de la terreur. Ça se trouve en Oberland, très proche de l'Eyer. C'est un 4000. J'étais sur sommet que j'ai fait avec un ami et on était entouré de plein d'autres 4000 mètres qui avaient l'air tous magnifiques. Et je me suis dit, mais j'en connais peut-être 20%, j'ai tout à découvrir là. Et aussi, ça rentrait dans un projet un peu plus global d'arrêter de prendre l'avion pour faire sa passion, mais d'essayer de penser un peu plus local, de se dire finalement dans les Alpes on a des montagnes magnifiques, pourquoi est-ce que je prends l'avion pour aller en Patagonie ou au Pakistan alors que j'ai un terrain de jeu presque illimité ici à la maison et à 2-3 heures de route de la maison. Parce qu'au final, quand on habite Chamonix, on fait beaucoup de montagnes à Chamonix, c'est un massif qui est exceptionnel. On en fait un peu dans les écrins, on va un tout petit peu en Suisse, mais je connaissais assez peu toutes ces montagnes suisses, ces montagnes italiennes, et les vallées, les refuges. Et j'avais envie de découvrir aussi tout ça. Et puis j'avais envie de vivre ce projet de façon un peu particulière, en y associant à la fois le ski, le parapente, et puis l'alpinisme classique. Et surtout, en fait, je voulais que ce soit une belle aventure humaine en conviant des très bons amis à moi alpinistes à venir me rejoindre sur une, deux ou trois ascensions selon leur disponibilité. Donc c'est un projet que j'ai partagé avec 22 compagnes et compagnons de cordée.
Dans votre cheminement personnel, vous disiez vouloir rechercher, ou plutôt retrouver l'esprit de la montagne, l'esprit des grands anciens. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, retrouver l'esprit de la montagne? Ça veut dire que cet esprit-là, il avait disparu, il s'était perdu?
Non, j'aurais pas la prétention de dire ça. En fait, c'est comme les premiers alpinistes, avant qu'il y ait les téléphériques, avant qu'il y ait les remontées mécaniques ou les trains, ils partaient du bas de la vallée pour faire une grosse montagne qu'ils avaient sous les yeux, que ce soit le Cervin, que ce soit le Mont Blanc. Et j'avais envie de vivre cette aventure des 4000 en ne prenant aucune remontée mécanique et en partant, comme avant, du bas de la vallée. Et ça m'a fait découvrir un autre visage de la montagne, parce que j'étais décalée par rapport aux autres personnes, j'étais pas sur les mêmes horaires. Ça a fait qu'on a vécu une montagne assez solitaire, je sais pas comment le dire, mais plein de fois on s'est retrouvé en haut d'un 4000 mètres et il y avait personne. Par exemple, le Cervin, qui est une montagne extrêmement prisée, et ben on était tout seul au sommet. Et ça, c'est quand même des moments magiques et des moments exceptionnels. J'ai apprécié de redécouvrir une montagne un peu plus sauvage du fait de partir sans prendre les remontées mécaniques.
Et alors, est-ce qu'il y a une sorte de progression, je dirais, de l'ombre à la lumière? Parce que les fonds de vallée, pour moi, c'est un peu... Il fait parfois un petit peu gris. Et donc, de quitter ces fonds de vallée ou ces vallées pour monter vers le ciel, vers le soleil, est-ce que c'est un cheminement qu'on peut envisager, en tout cas?
En fait, c'était l'occasion de penser à plein de choses, de savourer ce qu'on avait déjà fait, d'anticiper ce qu'on allait faire. Et je pense que tous ces 4000 ont conduit à une petite transformation. Après un grand voyage comme ça qui dure plus d'un an, on est forcément un peu transformé à la fin. Et ces grandes approches longues, c'était vraiment des moments méditatifs et des moments aussi de partage, parce qu'on pouvait beaucoup discuter de sujets qu'on n'aborde peut-être pas dans la vie de tous les jours. Là, c'était vraiment le temps s'arrête, on marche, on a le temps de se parler, on a le temps d'observer et on a le temps aussi d'être seul et de pouvoir méditer.
Est-ce que c'est aussi une manière de lutter contre un monde qui va de plus en plus vite, même dans votre métier à vous, où on grimpe maintenant très très vite? Est-ce qu'il y avait aussi cette espèce de contrebalancement?
Peut-être qu'inconsciemment, il y avait aussi cette idée, je pars pas pour faire une performance, je pars pas pour faire un record. Il y a d'autres personnes bien plus fortes que moi qui ont fait ces 4000 en 60 jours, 62 jours. Je pensais à Uli Steck, il l'a fait l'année où je me suis dit, je vais faire ces 4000. Uli est parti dans son propre projet de faire les 4000 mètres, qu'il a fait en 62 jours sans prendre aucune remontée mécanique, ni aucun moyen motorisé de se déplacer, c'est-à-dire pas de voiture. Il a tout fait en vélo ou en courant, ce qui est exceptionnel. Moi, j'étais pas du tout là-dedans. Je me suis dit, je veux vivre la montagne pleinement. Je veux la vivre à mon rythme. Je veux la découvrir et je veux la partager.
Où est-ce qu'elle est la magie quand on arrive au-dessus de 4000? Elle est dans la vue, elle est dans l'air, dans le...
La magie, elle peut commencer déjà juste le matin. Des fois, en alpinisme estival, on part à 1h du matin, dans le noir complet, avec nos petites frontales. Et déjà ça, c'est magique. On est là sur la neige ou sur le rocher, et il y a deux petits points lumineux qui se déplacent au sein d'une grosse montagne. Ensuite, la magie, elle peut être dans le lever de soleil ou le coucher de soleil, qui sont juste incroyables. Et puis, effectivement, quand on est tout en haut, quand on est au-dessus de 4000 mètres, qu'on est au-dessus de tous les autres sommets autour de nous, la vue, elle est assez folle, elle est assez... elle est forte, elle est... Voilà, on se dit, ah, tous ces sommets-là que je commence à bien connaître et... Ça nous remplit, c'est quelque chose de très fort.
Monter et descendre à 82 reprises, est-ce que ça développe une forme d'addiction? Je vais pas dire de drogue, mais est-ce qu'on se lève le matin en se disant « Tiens, il faut que j'y aille, j'en ai une autre affaire. » Est-ce qu'il y a un côté...
Je pense pas qu'il y avait ce côté addictif. Par contre, quand ça s'arrête, c'est vrai que là, on se dit oh, « J'avais l'habitude de marcher tous les jours, de faire des grosses journées de 7 heures, et là... » Il n'y en a plus, quoi. Donc il y a un petit peu cette phase où il faut vite se retrouver en autre projet ou se projeter dans quelque chose d'autre, parce que d'un coup on se dit « Ah mais je fais quoi demain ?»
Vous parliez tout à l'heure d'une forme d'aventure intérieure. C'est à la fois se retrouver face à soi-même quand on grimpe, mais c'est aussi se retrouver face à la montagne, face à sa dureté, face à ses rochers, face à la neige, face à la glace.
Est-ce que c'est vraiment en parallèle ? Plus on fait de la montagne, plus il y a des moments durs, plus on va apprendre sur soi-même, en fait. C'est intimement corrélé, je dirais. On va apprendre des petites erreurs ou on va apprendre de ce qu'on a bien fait, mais en se disant, tiens, je peux encore mieux faire, donc on va aussi chercher à améliorer. Et puis, il y a ce qu'on vit à l'intérieur et se dire, c'est marrant, j'ai réagi comme ça ou j'ai pensé ça ou je me sens comme ça. Et on apprend énormément sur soi et sur ce qu'on est capable de faire.
Et donc faire une erreur ou des erreurs, ça arrive à tout le monde assez fréquemment.
Oui, j'ai fait une erreur au bout du deuxième mois. On avait fait 38 sommets de plus de 4000 mètres. Je commençais à être un peu fatiguée. Ils annonçaient vraiment un vent du nord glacial. Et je sais que je ne suis pas très résistante au froid. Donc j'étais assez peu motivée d'aller sur des sommets d'altitude avec des températures qui pouvaient aller sur moins 15, moins 20. On est parti sur un sommet qui s'appelle l'Aletschorn en Valais, en Suisse. J'ai eu un moment d'inattention en regardant au-dessus. En fait, je voulais regarder la suite de la voie. Je voyais qu'il y avait de la glace. Je me demandais si on pouvait passer sur les rochers. Je me suis décalée sur la gauche. J'ai mis le pied sur un pont de neige au-dessus d'une crevasse qui s'est cassée. Et j'ai basculé un peu dans cette crevasse en me tapant assez violemment la jambe. Je me suis fait une déchirure musculaire au mollet, mais je ne le savais pas à ce moment-là. C'est après, en faisant les examens. Et surtout, comme il faisait très froid ce jour-là, jusqu'à ce moment-là, je bougeais encore beaucoup mes orteils parce que je sentais que j'avais froid, donc je bougeais énormément mes orteils. Et là, cet accident dans cette crevasse m'a un peu déconcentrée. On a continué jusqu'au sommet. On a fait le sommet. Arrivé en haut au sommet, je commençais vraiment à avoir très mal dans le mollet. Je pouvais quasiment plus plier ma jambe pour redescendre. Et là, je me suis dit, je mets tout le groupe en danger. On a une pente à skier qui est un peu chargée en neige, donc potentiellement dangereuse si on pense au risque d'avalanche. Je vais appeler les secours. Et il y a eu beaucoup d'attentes avant que les secours arrivent, parce que j'étais pas en danger de mort à ce moment-là. Et pendant ce temps-là, j'ai oublié encore de bouger mes orteils. Quand je suis arrivée à l'hôpital à Visp, en Suisse, j'avais deux grosses gelures aux deux gros orteils. J'ai dû faire un traitement hyperbare sous oxygène à Genève pour récupérer. Et puis, pendant plusieurs semaines, je pouvais pas retourner ni au froid ni en montagne. Et je pouvais de toute façon pas mettre de chaussures parce que j'avais trop mal aux pieds.
Et juste pour revenir sur ce pont de neige qui cède, quand vous vous appuyez dessus, donc il y avait une crevasse dessous et vous êtes tombé dans la crevasse ?
Comme à chaque fois, quand on est sur une zone glaciaire, on est encordé. En théorie, on ne peut pas tomber très loin dans la crevasse. Mais là, j'ai vraiment cassé un tout petit pont de neige qui n'était pas assez grand pour que tout mon corps passe. J'ai juste basculé un tout petit peu dedans, jusqu'à la taille. C'était une crevasse très profonde, mais très étroite.
Et c'est une sensation que vous aviez déjà connue dans votre carrière ?
Non, c'est une sensation bien particulière de tomber comme ça dans le vide. J'avais jamais connu ça avant et j'avoue que c'est assez surprenant et presque terrifiant.
Si on radiographiait votre corps, je pense que la faculté de médecine se frotterait les mains parce que vous avez connu de multiples accidents, incidents, blessures. Comment l'aventurière que vous êtes... Quel rapport elle a avec son propre corps ?
C'est une bonne question. Je pense que d'une façon générale, quand on est athlète, notre corps, c'est quand même notre meilleur ami, notre meilleur allié. Notre corps nous propulse, nous amène à faire des choses un peu hors normes ou en tout cas pas habituelles. Quand un athlète ou une athlète est blessée, ben forcément tout s'arrête et on n'a pas le même rapport au corps. Et c'est vrai qu'avant ce projet des 4000, j'enchaînais les blessures sur des choses un peu bêtes, hein, une petite chute à ski, une chute en entraînement en escalade où je me casse le pied, une chute dans un escalier en Chine qui glissait où je me casse une vertèbre. Donc c'était pas forcément que des accidents de sport, mais j'arrivais à me faire des fractures assez régulièrement et assez facilement, ce qui était un peu étonnant. Ce projet des 4000, il est aussi arrivé au moment où je me suis vraiment dit, mais là, maintenant, faut que tu arrêtes de te faire mal, c'est plus possible. Mon corps, je veux lui donner du bien-être, de l'amour, et même quand il est blessé, en fait, il faut continuer à être très positif et à mettre de l'énergie dans la blessure, quelque part à la nourrir, cette blessure, et après à la transformer en quelque chose de positif. Quand on est arrêté 3, 4 mois, 6 mois, c'est jamais des moments très agréables, mais il faut être capable de le transformer et de se dire, mon corps, je vais le réparer. Il va fonctionner aussi bien qu'avant. Il faut juste retrouver la confiance dans l'activité, parce qu'on perd forcément beaucoup dans la gestuelle, dans sa confiance. Par exemple, en escalade, quand on n'a pas grimpé pendant longtemps, on n'a plus confiance vraiment dans ses bras, dans ses avant-bras, dans les prises qu'on peut tenir. Alors que quand on grimpe tout le temps, on peut tenir une toute petite prise dans du dévers, ça ne nous pose aucun problème. Et là, après une blessure, ben non, il y a de l'appréhension, on n'a pas envie de voler, on n'a pas envie de chuter, on a forcément un peu de l'appréhension de se refaire mal, et il faut arriver à dépasser ça.
Et est-ce que parfois le corps vous rappelle qu'il a souffert ? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des douleurs même légères qui reviennent, je sais pas, au niveau de la vertèbre ou des choses comme ça, où tout disparaît ?
Juste quand on enchaîne des grosses journées de 18 heures, on se lève à 3 heures du matin, on s'arrête à 21 heures le soir, on porte un sac à dos très lourd. Forcément, le lendemain ou le surlendemain, les muscles sont noués, on est un peu plus raide. Le corps, il me dit oui, t'as fait un gros effort hier, aujourd'hui tu le payes un petit peu. Et puis, sur les blessures, de temps en temps, on peut avoir des petites douleurs qui reviennent comme ça. Elles font coucou et puis elles repartent.
Est-ce que ça veut dire que la souffrance et la douleur doivent accompagner l'exploit ?
Je ne sais pas si c'est catégorique, mais c'est vrai que de toute façon, quand il y a un exploit sportif, c'est que la personne est allée très loin dans le dépassement d'elle-même. Et plus on est dans le dépassement, plus, je ne vais pas dire plus on va dans la souffrance, mais quand on grimpe et qu'on a les bras complètement durs parce qu'ils sont presque tétanisés et qu'il faut encore faire un mouvement de plus et un mouvement de plus, ben on est dans ce dépassement, on sent plus la douleur finalement, on a dépassé ce stade de douleur, on est tellement concentré sur le geste suivant que ben oui, il n'y a plus rien qui répond, les bras répondent plus, mais notre tête elle nous dit d'y aller et on y va quand même. Et finalement, la souffrance, est-ce qu'on la sent vraiment ? Je crois qu'on est tellement concentré sur l'action que la souffrance, elle n'y est plus vraiment.
Vous avez parlé tout à l'heure de Ulistek, votre ami, qui a disparu pendant que vous faisiez votre périple. Les disparitions, c'est des choses qui constellent vos vies d'alpiniste. Comment vous l'avez vécu, celle-ci ?
La disparition d'Uli a été très douloureuse. C'était quelque chose qui était dur à accepter. Parce que déjà, c'était un ami proche, c'était une immense source d'inspiration. C'était vraiment le meilleur alpiniste et loin devant tout le monde. Uli, je ne le voyais pas du tout avoir un accident ou mourir, même s'il prenait des risques énormes quand il faisait ses records de vitesse, où il y avait un engagement qui était incroyable. Mais il maîtrisait tellement les choses que voilà, je ne le voyais pas avoir un accident ou disparaître. J'avoue que j'ai mis quand même 2 jours avant d'accepter et de réaliser que c'était bien lui qui était décédé. Parce que quand j'ai appris la nouvelle le matin, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Enfin, c'est quelqu'un d'autre qui porte ses vêtements qu'on a retrouvé. Enfin, j'étais vraiment dans cette espèce de déni pendant 2 jours. Et puis au bout de 2 jours, ben non, la réalité, elle est là. Et malheureusement, c'est lui qui est parti sur un sommet un peu, je vais pas dire démoniaque, parce qu'à partir du moment où on met les pieds en montagne, c'est quand même, il y a toujours un risque. Mais voilà, il n'était pas dans quelque chose d'extrême comme il a pu faire auparavant. Donc, ça m'a beaucoup affectée. Je me suis dit, la montagne nous enlève aussi des amis proches. Et pendant plusieurs semaines, je me suis dit, bon, je vais attendre un peu, parce que là, je me sens pas d'aller en montagne tout de suite.
Et vous y pensez, vous, au risque, chaque fois, voire à la mort, en fait, qui rôde au-dessus de vous tous, les gens qui grimpaient ?
Bon, il faut pas trop ternir le tableau quand même. La mort qui rôde, je sais pas si c'est comme ça. Effectivement, quand on est en montagne, on est exposé forcément à des moments, mais on pense aux dangers, on essaye d'anticiper les dangers. Après, on pense pas à la mort à chaque fois qu'on met les pieds en montagne, parce que sinon, on met plus les pieds. Après, on peut se faire des grosses frayeurs. Par exemple, sur l'intégrale du Pilier du Brouillard, qui est une longue voie qui se trouve en face sud du Mont Blanc, on s'est retrouvé avec mon ami Chris Warner, un ami australien, sous une énorme chute de pierre. Et on était là, dans cette face, et on était littéralement mitraillés par des chutes de pierre qui nous arrivaient dessus. On n'avait pas pu prévoir ça, on ne pouvait pas l'éviter. Donc on s'est juste protégé en rentrant les épaules, en essayant de montrer le sac à dos sur nos dos plutôt qu'en baissant la tête, en se recroquevillant, mais tout en se tenant, parce qu'il fallait quand même qu'on s'accroche à quelque chose. Et c'est vrai que dans ce moment-là, on voudrait être partout ailleurs, mais pas ici. On prend un caillou sur la main, ça peut complètement abîmer une main, des doigts, dans la jambe. Je me suis dit, là, il y en a au moins un ou deux qui va ressortir blessé de ça. Et puis, les pierres se sont arrêtées et on s'est appelé parce qu'on n'était pas juste à côté. On avait une longueur de corde entre nous deux. Et ni la corde était abîmée, ni nous-mêmes, aucune pierre nous avait atteint et c'était presque un miracle.
Et alors, on arrive au bout de l'histoire. Comment ça s'est terminé le moment où vous êtes arrivé au 82e sommet? Est-ce que c'est un peu différent? Est-ce qu'il y avait du champagne?
Alors effectivement, c'était quand même un peu différent. Ces deux derniers sommets qui me restaient à faire. Deux sommets qui s'appelaient la Blanche de Petraie et le Grand Pilier d'Angle, qui se trouvent sur une arête qui s'appelle l'Arête de Petraie. Et je voulais absolument faire l'intégrale de cette arête pour finir sur une belle grande course d'alpinisme. Et ça a été compliqué parce que j'y suis allée trois fois. Les deux premières fois, ça n'a pas marché pour différentes raisons. Et ensuite, on a eu un été caniculaire avec beaucoup d'orages. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, ça ne va pas faire cette année. J'irai l'année prochaine en juin quand il y a encore de la neige, que tout tient un peu. Et puis, on arrive à fin août. Et là, je vois qu'il y a un très beau créneau météo qui est là, avec un vent stable, une météo parfaite, anticyclonique. Et j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit « Liv, t'as vu le créneau, est-ce qu'on n'irait pas à l'intégrale de Petraie ?» Et à ce moment-là, je suis en Suisse, je suis en train de grimper avec un ami sur le pilier des Genevois à côté de la face nord de l'Eiger. Et je lui dis « Écoute, j'ai essayé plein de fois cet été cette course, je m'étais dit que j'irai l'année prochaine. » Et l'ami qui est là avec moi, il entend ça et le soir on en discute et il me dit « Mais t'es sûr, tu veux pas y aller là, l'intégrale ? Si tu veux, on y va et on y va avec les parapentes. » Et là je me dis « Mais t'es vraiment motivé pour faire ça ?» Et il me dit « Oui, oui. » Je lui dis « Mais écoute, ça va pas, tu commences juste le parapente, le déco du sommet du Mont Blanc, il est pas compliqué en soi, mais le poser, il faut le connaître. » Il me dit « Non, non, je suis super motivé, on y va. » On prend la voiture, on part, on revient à Chamonix, on fait un vol ensemble pour qu'il voit le poser, et on part en Italie. On se dit qu'on va mettre que 2 jours et non pas 3 pour partir le plus léger possible. Et là, on part dans cette course hyper concentrée, avec une grosse énergie derrière et beaucoup de fluidité. C'est une course qui est vraiment longue. Il y a un petit abri bivouac qui se trouve après les Dames anglaises. Donc, c'est une arête qui commence par la Noire de Petraie, qui redescend en rappel de l'autre côté dans une face nord et qui remonte sous les Dames anglaises pour aller chercher le petit bivouac qui s'appelle le bivouac Craveri. Et c'est assez difficile d'atteindre ce bivouac à la journée. Et on est arrivé là à 21h, complètement fatigué, affamé, assoiffé, mais on y était et c'était ce qu'il fallait faire. Et le lendemain, en fait, on est reparti sur la Blanche de Petraie, le Grand Pilier d'Angle, Mont Blanc de Courmayeur et enfin le Mont Blanc. Et on est arrivé au sommet du Mont Blanc à 16h. J'arrive en premier et je vois que le vent est parfait pour décoller et je me dis, mais pff, c'est cerise sur le gâteau. On va même pouvoir décoller du Mont Blanc après avoir fait cette grande course sur 2 jours. C'est vraiment quelque chose de... C'est fou, quoi. C'était vraiment très fort. Et je me souviens de ce grand bonheur d'être au sommet de ce Mont Blanc, tout seul, parce que du coup, on y était dans l'après-midi, et de se dire, allez, on sort les voiles, on décolle, et c'est parti, quoi.
Pendant que vous voliez avec votre parapente, vous vous êtes dit ça y est, c'est fini.
Je suis quelqu'un qui, tant qu'on n'est pas arrivé en bas au sol, je vais pas me déconcentrer, je vais pas me dire ça y est, c'est fini. Donc en fait, non, j'ai vraiment savouré ce vol très long et très gazeux du sommet du Mont Blanc. J'ai fait des petits allers-retours, je regardais tous les glaciers, tout le refuge des mulets, je regardais tout ça parce que c'est quand même un spectacle extraordinaire. Mais pour moi, c'était pas fini. Pour moi, la fin, c'était quand je posais les 2 pieds au sol, tranquillement, sous la voile, et que la voile s'affaissait. Ça, c'était vraiment la fin.
On va se poser, nous aussi, Liv. Merci pour tout ce que vous nous avez raconté.
Merci à vous.
Dans le prochain épisode, nous prendrons l'air du large avec un explorateur de l'avenir. L'avenir du sport, de l'exploration, l'avenir de la navigation qui s'écrirait dans le Finistère. Merci à Rémi Fier, Roland Richard, Théo Boulanger qui m'ont aidé à préparer, produire et réaliser ce podcast.